7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à 6 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, nous nous interrogeons sur l'école publique en Amérique, l'école primaire et secondaire qui scolarise près de 90% des élèves. Les défaillances, le sous-financement de ce secteur ne sont pas nouveaux, mais depuis quelques temps tout de même, le système semble craquer de toutes parts. Des enseignants dont le salaire n'a pas augmenté depuis plus de 20 ans dans certains États sont obligés d'exercer plusieurs métiers pour s'en sortir. Selon le ministère de l'Éducation, 94% des profs américains ont déjà payé de leur poche des fournitures scolaires. Des mouvements de protestation, des grèves se multiplient pour réclamer des hausses de salaire et des budgets de l'enseignement public. 3 200 000 profs dénoncent grosso modo leurs conditions de travail et certains se présentent aux élections de mi-mandat. Alors peut-on parler de crise de l'éducation dans un pays qui, paradoxalement, accueille les cerveaux du monde entier? Nous allons en discuter avec nos invités. Émilie Souiri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis à l'université Nice Sophia Antipolis, l'université Côte d'Azur. François Durper avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des États-Unis aussi à l'université Sergi Pontoise et en sciences de l'éducation. Et vous publiez votre dernier ouvrage, vous avez publié plusieurs ouvrages, mais le dernier c'est Les écoles du bonheur. Et
oui, parce que mon laboratoire s'appelle le laboratoire Bonheur. On travaille sur l'éducation.
Et ça parle aussi de la pédagogie américaine.
Oui, oui, bien sûr, parce que
comment
il y a quand même aussi plein de choses du côté américain.
Voilà, malgré les déficits et le sous-financement du secteur de l'éducation aux États-Unis, on peut y être heureux. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous nous suivez aux États-Unis et que vous vous sentez concernés par le sujet, en tant que parents d'élèves dans le public ou enseignants, appelez-nous si vous êtes déjà réveillés au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone ou WhatsApp. Vous pouvez poster des messages écrits. Et pour les autres, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions à nos invités. Mais par contre, pas de messages audio parce que notre émission en direct a déjà commencé. On préfère vous avoir de vive voix au téléphone.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage de cet enseignant américain, Andy Durkas, à 29 ans. Il est professeur de mathématiques depuis 5 ans, dans un lycée public d'Oak Park, dans la grande banlieue de Detroit, de Détroit, dans le Michigan. Précisément l'état d'origine de la secrétaire à l'éducation de l'administration Trump, Betsy DeVos, qui a passé sa carrière à prôner le démantèlement de l'enseignement public. Dans la classe d'Andy Durkas, 90% des élèves sont noirs et viennent de milieux défavorisés.
Je travaille bien plus de 40 heures par semaine et je gagne un petit 40 000 dollars par an, le salaire minimum. Tout part dans mon emprunt immobilier, mon assurance voiture, ma dette étudiante. Le coût de l'université a augmenté, donc je dois 40 000 dollars, ce qui est peu en fait car je n'ai qu'une licence. Ma fiancée, elle, a un master et elle doit plus de 100 000 dollars.
Andy Durkas, aux États-Unis, 16% des professeurs dans l'éducation publique ont un deuxième métier pour s'en sortir.
Oui, moi je ne passe pas un été sans travailler. J'ai bossé temporairement pour une école sur Internet à noter les devoirs de leurs élèves. Je fais du soutien scolaire le midi dans mon lycée, payé en heures supplémentaires. J'ai des collègues qui sont caissiers dans le grand magasin Sears pour 10 dollars de l'heure. C'est toujours ça de plus. Un autre collègue a vendu des chaussures.
Il y a aussi des professeurs qui travaillent comme jardiniers ou qui travaillent comme manutentionnaires à Amazon.
Oui. La plupart des établissements publics, notamment dans les grandes villes, ont vu leur budget baisser. Au cours des 10 dernières années, les académies ont coupé net les salaires des profs de 5% pour ne pas couler. Nos écoles publiques sont financées par la taxe de propriété, donc les élèves les plus pauvres, dont les maisons ont une faible valeur immobilière, sont ceux qui vont dans les écoles les plus démunies, alors qu'ils auraient au contraire encore plus besoin du soutien de l'État.
Dans notre académie, on manque cruellement d'équipement pour tout ce qui relève de la formation professionnelle. On n'a pas d'atelier, pas de garage pour apprendre la mécanique. Il n'y a aucun outil pour les élèves dont les matières académiques ne sont pas le point fort. Les cours de musique et d'art ont été supprimés, alors que pour certains élèves, c'était une motivation pour venir au lycée.
Dans votre lycée, Andy, il y a une piscine qui n'a pas été remplie d'eau depuis plus de 5 ans.
Oui, et c'est très symbolique de la situation. Avant, elle était ouverte le week-end. Les gens du quartier pouvaient venir nager gratuitement. C'était un lieu important pour la communauté. Et il n'existe plus. Vous savez, les profs dans l'Oklahoma et d'autres États ont fait la grève parce que dans leur salle de classe, la moindre chaise est cassée. Je comprends pourquoi il est difficile aujourd'hui de vouloir s'engager dans ce métier si dénigré.
Aux États-Unis, dans l'enseignement public, il y a un grave manque de professeurs.
Absolument. Autour de moi, c'est flagrant. Les étudiants ne font plus ce choix de carrière. Un de nos profs de maths est parti et on a eu toutes les peines du monde pour en embaucher un nouveau. Pendant près d'un an, toute une classe s'est retrouvée avec un remplaçant car on ne pouvait pas les répartir dans les autres classes déjà surchargées. Vraiment, c'est dur. Et en plus, nous, les profs, on se fait critiquer à tour de bras.
Il y a aussi beaucoup de pression sur les épaules des professeurs à qui on attribue la responsabilité de l'échec de leurs élèves quand ils ne réussissent pas bien les nombreux tests qui leur sont soumis.
N'importe quel professeur vous dira qu'on nous fait soumettre beaucoup trop de tests standardisés à nos élèves. La semaine dernière, nous leur avons fait passer un examen étatique, destiné en gros à évaluer leurs aptitudes à aller à l'université. Les élèves n'aiment pas du tout ce genre de test. Ils devaient par exemple lire un extrait de livre, puis répondre à des questions. Ils avaient 40 minutes. Mais la plupart d'entre eux, en moins de 5 minutes, avaient bâclé toutes leurs réponses, refermé leur livre et s'étaient repliés sur eux-mêmes, tête baissée. Ils se sentent d'emblée en échec et ne s'investissent pas du tout. Ils en ont marre de faire tous ces tests destinés à évaluer les établissements. Moi, en tant que prof, je perds une douzaine de jours par année scolaire à cause de ces tests standardisés, en plus des contrôles sur ce que j'enseigne.
Le système attribue la responsabilité de l'échec de nombreux élèves aux professeurs qui ne seraient pas assez efficaces, mais ce qui en général est tu, c'est que les principaux facteurs d'échec sont des facteurs extérieurs. La ségrégation, le niveau de ségrégation de nombreux districts scolaires comme celui où vous enseignez, la pauvreté des familles, le cycle de pauvreté, la violence environnante, et tout ça pèse sur ces élèves.
C'est certain que mon lycée est ségrégué. Les élèves sont quasiment tous noirs. Et les élèves en sont bien conscients. Je sais que beaucoup de mes élèves ne mangent pas bien, et pas à leur faim. Ils arrivent le matin avec un sac de chips et un soda. Au milieu des premières heures de cours, ils se plaignent de mal au ventre. Bien sûr qu'ils ont mal au ventre, si c'est ce qu'ils mangent au petit déjeuner.
Comment ça se passe la relation entre vous pour leur enseigner ou pour tout simplement créer une confiance ?
La plupart de mes élèves savent que je suis là pour les aider à apprendre et ils en sont reconnaissants. J'enseigne les maths, mais souvent je me sens aussi comme un conseiller social, un parent temporaire, un coach ou un infirmier. Nombreux sont méfiants envers toute figure d'autorité. Et en tant qu'homme blanc, je ne veux pas être un flic à leurs yeux. Je veux qu'ils me fassent confiance. Aux États-Unis, il y a une expression disant que, pour les jeunes noirs des quartiers pauvres, l'école, c'est l'antichambre de la prison. Combattre cette dynamique est un vrai défi. Je veux donner à mes élèves le plus de chances possible. Ils restent la raison pour laquelle je fais et aime ce métier, malgré les grandes difficultés.
Témoignage recueilli par Cerise Maréchaux, Émilie Souhiri, François Durper. Toute la question, c'est de savoir combien de temps cet enseignant va tenir et va rester enseignant. Son salaire, 40 000 $, est en dessous du salaire moyen qui est à 58 000 $. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, tous les deux, en tant que spécialiste des États-Unis, que l'éducation est devenue un vrai sujet politique à part entière, Émilie Souhiri ?
Alors, je pense que ça prend de l'ampleur en ce moment. La visibilité, elle n'a pas été aussi importante jusqu'à présent. On parle après dans les milieux spécialistes de l'éducation de crise depuis qu'il y a des écoles à peu près. Et le problème, on peut remonter par exemple en 1971 à l'ouvrage de Jonathan Kozol qui s'appelle toujours d'ailleurs Savage Inequalities et qui montrait bien que la source de la crise aux États-Unis, c'est avant tout un problème de financement, comme le soulignait l'enseignant que vous avez interviewé. Il y a des inégalités qui sont plus que criantes, des écoles, donc, puisque le système de financement est par définition inégalitaire,
les écoles sont financées avec les impôts locaux.
C'est pas uniquement les impôts locaux, il y a un système de redistribution. Mais le problème, c'est que il y a une part qui est donc qui provient des impôts locaux, et puis dans les quartiers riches, les parents rajoutent de l'argent parce qu'il y a un système comme dans les universités en fait. On va essayer de donner son nom à un gymnase, etc. Et donc les entreprises vont financer les écoles publiques et renforcer ces inégalités. Il y avait des écoles à Chicago quand j'y étais où il y avait des trous d'impact de balles dans les vitres, alors que d'autres écoles ont des piscines, des terrains d'athlétisme, des piscines chauffées, etc.
Et en même temps, François Durpère, d'habitude, c'est pas vraiment un sujet politique, un sujet de campagne.
Non, c'est pas un sujet de campagne, mais ça l'est pas non plus cette fois-ci. Le sujet de campagne, vous l'avez sous le nez, c'est l'immigration, c'est l'économie toujours. Et quand on va chercher du côté social, c'est plutôt la santé que l'éducation. L'assurance santé, est-ce qu'il faut démanteler les dispositifs mis en place par Barack Obama? Donc quand on a fait économie, immigration et santé, ça arrive très loin derrière. Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'éducation, elle a quand même joué un rôle fondamental dans l'histoire du pays. Vous vous souvenez qu'en 1954, cet arrêt de la Cour suprême qui déségrègue les écoles, c'est vraiment le moment fort des droits civiques. On a commencé par déségréguer l'armée en 1947, mais la Cour suprême, elle est revenue sur l'arrêt de 1896, et c'est l'école d'abord. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, si on met pas fin à la ségrégation, eh bien on peut pas créer du rêve américain, on ne peut pas créer de l'égalité. Alors, ce qui change en ce moment, c'est qu'il y a eu des grèves de profs très importantes au cours des derniers mois, justement pour cette question du salaire, parce que quand vous évoquez le fait que 16% seulement des profs ont un deuxième emploi, il faut aussi penser que c'est une profession qui est féminisée aux trois quarts. Donc, ça veut dire que beaucoup, beaucoup de profs font deux activités. Et puis, la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que on touche un tout petit peu au système, c'est que c'est pas le fédéral. C'est de date récente que le fédéral s'occupe de l'éducation. C'est 1979. C'est Carter qui a mis en place ce ministère de l'éducation. Donc ça veut dire que c'est à charge des États, de chacun des États. Ça, c'est le 10e amendement à la Constitution américaine qui prévoit ça. Donc vous avez là deux acteurs fondamentaux qu'on connaît peut-être un petit peu moins du côté francophone, que sont les parents, c'est très important dans le système, la liberté des parents, etc. Et puis, l'État, quand je parle de l'État, je devrais dire les États et non pas l'État fédéral. Et là, vous avez une des guerres culturelles de l'Amérique. Les républicains disant non, il faut le moins de place possible pour le ministère de l'Éducation nationale. Et les démocrates qui disent non, il faut vraiment une dimension fédérale, nationale à l'éducation.
Alors, vous le dites, le problème de l'école publique qui accueille l'immense majorité des élèves n'est pas nouveau, le sous-financement n'est pas nouveau, mais quand même, on a quand même près de 29 États qui n'ont pas retrouvé leur niveau de financement d'avant la crise de 2008, il y a 10 ans quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie crise du financement de l'éducation aux États-Unis, Émilie Souhiri?
Cette crise, les professeurs, les enseignants l'ont perçue. Ils ont créé un mouvement Red for Head, pardon. Il y a un hashtag qui a fait assez fureur dans pas mal d'États, notamment l'Arizona, l'Oklahoma, le Kentucky. C'était en 2012 à Chicago. Il y a eu une grève de profs qui a été très longue, alors que
ils ont cessé parce parce qu'ils ont quand même obtenu à ce moment-là, ils ont obtenu des augmentations.
Oui, ils ont obtenu des augmentations, mais c'est intéressant parce que le contexte national, on a l'impression à entendre les médias que les parents soutiennent pas du tout les enseignants, alors que c'est pas vrai. En fait, on voit un film, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, Won't Back Down, qui a été traduit en français de leurs propres ailes avec Maggie Gyllenhaal. Si on voit le film, on a l'impression que les syndicats sont la bête noire de toutes les familles américaines, alors qu'en réalité...
C'est la profession la plus syndiquée.
C'est la profession la plus syndiquée, mais il y a eu un mouvement les financements à la Frère Cog, etc., ont essayé de faire en sorte que les syndicats se délitent de plus en plus, notamment à travers le mouvement des écoles à charter, des charter schools, où on fait de plus en plus pour que les profs ne puissent pas se syndiquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont milité, parce qu'ils ne peuvent plus négocier les salaires, les augmentations de salaires, puisqu'on tape sur les syndicats constamment, comme si c'était les ennemis des élèves.
Alors, dans certains États comme l'Arizona, il y a 36% de baisse de budget. L'Oklahoma, c'est 15% de baisse du budget de l'éducation. Vous en parliez des inégalités. Vous le disiez, il y a des établissements où on a des impacts de balles et puis d'autres où il y a des piscines flambant neuve. Finalement, François Durper, comment dans ces inégalités-là, concrètement en fait, comment les Américains se débrouillent avec ces inégalités-là? Alors, est-ce qu'ils ont la possibilité d'inscrire leur enfant en dehors du quartier?
Vous avez, alors il n'y a pas de carte scolaire comme en France, donc vous avez un mouvement effectivement de liberté des parents. Comment les parents peuvent, alors on vient d'évoquer les fameux charter schools, on va peut-être y revenir. Il y a d'autres moyens, il y a les chèques éducation, les vouchers qui sont aussi assez anciens.
C'est un chèque qui est adressé à la famille.
Voilà, qui est un chèque. Donc ça veut dire qu'en fait l'État, au lieu de dépenser directement pour le système scolaire, va donner aux parents... Et c'est les parents qui
vont
dépenser.
Mais ça permet de faire quoi, ce voucher, ce chèque éducation?
Ça permet, à la fois, c'est censé rationaliser les dépenses de l'État, mais c'est aussi censé donner, apporter plus de liberté aux parents de scolariser l'enfant où il veut. Il y a aussi les réductions d'impôts.
Mais là, on parle bien d'école publique, donc d'école gratuite. Voilà. Donc dans le cas où
pour les vouchers, fait, il s'agit de donner de l'argent public pour pouvoir inscrire les enfants dans le privé. C'est-à-dire qu'on part du principe que un système qui serait le plus proche possible d'un système capitaliste de marché fonctionnerait mieux, parce que puisque les parents pourraient choisir les écoles, alors les écoles seraient obligées d'être en compétition les unes avec les autres.
Sachant que ces chèques sont pas forcément suffisants pour inscrire ses enfants dans une école privée, qui de toute façon est très coûteuse et très minoritaire sur le territoire.
Vous avez aussi
les
réductions d'impôts dans certains États, et qui peut aussi couvrir les dépenses liées à l'école. Pas uniquement l'inscription, mais aussi les dépenses. Mais le grand mouvement, c'est celui dont on parlait, c'est le mouvement des charter schools qui fait
qui
polémique.
Qui concerne que 6% des établissements publics en même temps.
Oui, mais alors, ça monte d'année en année.
Et c'est d'ailleurs encouragé par l'administration Trump.
Exactement. Parce que
ça a toujours été encouragé.
Je vous donne une anecdote. Moi, j'ai fait un documentaire sur la Nouvelle-Orléans, après, 10 ans après Katrina.
L'ouragan.
Très destructeur, et les gens me disaient, mais la chose, la première, il y avait même des théories du complot, même si c'est les éléments, mais en disant, ça a vraiment profité parce que à l'État qui a démantelé complètement l'école publique et qui a remplacé, car les écoles ont été rasées, ont été remplacées par des charter schools. Charter schools, ce qui est important, c'est que on a à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, l'impossibilité pour les profs de se syndiquer, mais également une logique d'efficacité économique.
Charter schools sont des écoles publiques gérées par des sociétés privées, mais qui demeurent gratuites pour les familles.
C'est gratuit pour les familles, le fonctionnement est privé. Et la grande question, c'est que Betsy DeVos, dans son état du Michigan, elle a mis en place un système où les charter schools ne ferment pas, même quand elles ne sont pas du tout efficientes sur le plan éducatif. Pourquoi? Parce que c'est pour le coup, c'est de l'investissement lucratif. dans ces charter schools. Normalement, c'est non lucratif.
C'est-à-dire que la société privée peut se faire un bénéfice sur le chèque des deniers publics si elle gère très bien son école.
Exactement.
Madame DeVos étant la ministre de l'Éducation.
Ministre de l'Éducation. D'ailleurs, il faut rappeler quand même d'un mot la manière dont ça a été le ministre qui a posé le plus de problèmes à Donald Trump. Elle a, à une voix près, il a fallu le vice-président Mike Pence pour voter pour elle, pour avoir. Parce que, à une voix près, notamment la sénatrice de l'Alaska, qui est républicaine, a reçu des milliers de mails, d'appels ses administrés dans l'Alaska pour dire ce n'est pas possible. C'est comme décider qu'un athée est à la tête de la papauté. Mais parce qu'elle a tenu des déclarations depuis des années hostiles à l'école publique, et parce que non seulement elle a tenu des déclarations hostiles à l'école publique, mais que dans son état, elle est apparue comme une idéologue de la charter school. C'est-à-dire que même quand ça ne fonctionne pas, il faut y aller à fond, parce que l'important c'est de gagner de l'argent. Et ça, évidemment, que ce soit, on le disait tout à l'heure, les parents soutiennent les profs dans ce mouvement-là, en se disant, d'accord, charter school, d'accord, mais quand ça ne fonctionne pas sur le plan éducatif, que de toute évidence, il y a des problèmes, il ne faut pas avoir une vision idéologique des choses.
Et en fait, quel est le vrai bilan des charter schools ? Ce qui, encore une fois, concerne une minorité des écoles, même si c'est très poussé politiquement.
C'est un bilan qui est très contrasté, c'est-à-dire qu'il y a certaines charter schools qui font très bien, d'autres qui font très très mal.
Donc très bien, ça veut dire qu'ils ont des bons résultats aux tests, les fameux tests qu'on fait passer tout le temps aux élèves pour évaluer les résultats de l'établissement scolaire et donc l'efficience des enseignants. Pour reprendre la philosophie américaine.
Oui, alors il y a des gens qui défendent les charter schools parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans celles qui fonctionnent. On prend par exemple KIPP qui est Knowledge is Power Program. C'est une chaîne de charter schools aux États-Unis. On a des bons résultats, mais des problèmes même à l'intérieur de ces bons résultats. Là, c'est un peu les charter schools vitrines qui sont d'ailleurs qui reçoivent des financements supplémentaires. Pas que du secteur public, mais du coup, il y a toutes les organisations philanthropiques derrière qui appuient ça, Bill Gates avec des dons, etc. Donc forcément, ils ne sont pas dans les mêmes conditions d'enseignement que les écoles publiques dont on a parlé plus haut. Mais le problème, c'est qu'il y a un niveau d'exigence dans ces écoles publiques, pour les profs, qui est difficilement soutenable. Il y a un taux d'abandon des profs qui est extrêmement grand. Un tiers des enseignants du réseau, qui a plus d'une centaine d'écoles maintenant, a abandonné. Donc, c'est pas un modèle.
Mais quand vous parlez d'exigence, ça veut dire quoi ? En termes de résultats au test de leurs élèves, c'est ça ? Ils se disent on ne pourra pas y arriver ?
Non, c'est pas ça. C'est en termes de temps passé à l'école, en termes de ils ont à donner leur numéro de téléphone aux élèves pour que, en fait, ils remplacent les familles qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Seulement, le problème, c'est que c'est pas soutenable sur le long terme, puisque une fois que ces enseignants ont eux-mêmes des familles, ils peuvent pas continuer à travailler parce qu'ils n'auraient plus le temps pour leur famille. Donc on a une vitrine comme ça qui fait croire que le système des charter schools peut fonctionner, et en réalité c'est pas le type de pédagogie et de système et de modèle qui peut fonctionner sur le long terme, malheureusement.
7 milliards de voisins. Si vous nous suivez aux États-Unis, que vous êtes parent d'élèves ou enseignant, évidemment, appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp. Vous allez nous donner votre point de vue. Si vous êtes réveillé au 33 1 84 22 71 71, et puis bien sûr pour les autres voisins, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez nous poser vos questions sur le système éducatif américain qui semble tout de même en mauvaise posture à l'heure actuelle. 33 1 84 22 71 71. It's 2002, everything was totally new. We were globally huge, watching sales go through the roof. We wrote when we feuded, Runyon Avenue soldiers included. A multitude of homies who would pounce for no good excuse. We were so bulletproof, float, souped and soaked in our youth. Thought we was running shit till we lost the sole of our shoe.
The death of duty broke us in two. We were thrown for a loop, ain't none of us know what to do. And at the time, I was going through my own struggles too. So I wasn't in no condition to be coaching us through. Everyone tried to go solo, really nobody blew. I was hoping they do, so I ain't have to shoulder the crew. The plan was put everyone in position so that they knew how to stand on their own. And I don't wanna open up wounds. I just noticed the oomph was gone when we go in the booth. Cause the truth is the moment the proof died, so did the group. Rinse away this dirt. I forgot to make amends to all the friends I may have hurt. I better stop and say my grace. From it I pray that I don't fall. Cause on the way back down I may end up running back into them all. I never meant to use you all as my stepping stones. Same, and it's bothered me since. And the farther we drift apart, the more awkward it gets. The more time goes by, the more life happens. And we gotta be men, we got responsibilities. Plus we don't say how we feel, and I feel like this is what got us in the debacle we're in. Been with you guys sticking thin, but it's almost as if sometimes we're not even friends. Which reminded me, Biz, Rockstar was the shit. Y'all could've got you a hit without me on the shit. If you'd have put D12 on it, wish I could've did more to try talking you into coming up off it. I know it wasn't my fault, but part of it probably is. I think of all of the trips to BET and the rappers I wish that we would have politic with. Maybe y'all could have clicked and got you some features, but that's water under the bridge. But I'm washing my sins in it till my conscience is clear.
C'est Eminem chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct, on parle des États-Unis, on est à 6 jours des élections de mi-mandat et nous faisons un peu le point sur le système éducatif américain, les écoles publiques, primaires, secondaires qui scolarisent la quasi-totalité des lycéens et des écoliers américains ou pas d'ailleurs. Hein, vous nous le disiez, François Durper, Émilie Souhiri, vous êtes spécialiste des États-Unis tous les deux. C'est pas le premier sujet de campagne, bien évidemment, mais c'est quand même un sujet politique qui monte à l'heure actuelle, d'abord parce que les enseignants se mobilisent et on va en parler, et qu'il y a des baisses drastiques budgétaires dans certains États, et évidemment des enseignants qui se plaignent non seulement de leur salaire, mais de leurs conditions de travail. Hein, aussi, on n'a peut-être pas encore bien expliqué, même si on a entendu le témoignage de cet enseignant en début d'émission, mais ce n'est pas seulement un problème de salaire, on est d'accord, François Durper.
Bien sûr, les enseignants, là, ils se prennent dans la figure tous les problèmes de la société américaine. Et d'ailleurs, vos deux sujets sont liés. C'est-à-dire, pourquoi ils se mobilisent dans cette campagne ? C'est que c'est plus de 1400 profs qui sont candidats à des élections. Il faut rappeler qu'il y a la Chambre des représentants, le Congrès, le gouverneur, il y a plein d'élections. Mais pourquoi ils se mobilisent ? Parce qu'ils sont face à la pauvreté. Ils sont face aux familles qui sont totalement désemparées en disant qu'ils doivent faire le travail des familles. Ils sont face à la question de la drogue. Et donc ils se prennent dans le visage
la
tous
violence
les mots,
dans les établissements.
La violence dans les établissements. Et quand on parle de violence, on ne parle pas seulement de Parkland avec
la tuerie en Floride
des dizaines
qui a fait 17 morts.
Ouais. Parce que là, du coup, les profs se sont solidarisés de leur lycéens en se disant « Nous aussi, on va à Washington et on réclame plus de sécurité. » Mais il y a la violence, j'allais dire, très, très visible de ces tueries de masse et puis la violence plus invisible du quotidien, de ces micro-violences qui pourrissent leurs conditions de vie des élèves également
dans
et des profs.
Dans un pays, quand même, rappelons-le, où on a 21% des moins de 18 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que ce sont les gamins qui sont dans les salles
sous
de glace
le
et que les profs ont à gérer.
Oui, et il faut, enfin pour ce, c'est peut-être un chiffre abstrait pour certains, mais
ça fait quand même pas loin d'un quart, hein, quand même, des moins de 18 ans.
C'est le chiffre le plus haut de l'OCDE. L'Amérique est très très dure avec ses jeunes. Hein, quand on regarde les moins de 6 ans, certains sont quand même déjà scolarisés, on passe à un taux de 26% en dessous du seuil de pauvreté. Quand j'étais à Chicago, je discutais avec des enseignants enseignants qui me disaient qu'ils avaient certains élèves qui étaient sans abri et qui, la nuit, dormaient dans le métro qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est quand même... Alors, on a des situations similaires d'extrême pauvreté en France, mais on est dans un chiffre qui est autour de 10% et on a un système d'État-providence qui, bon an, mal an, fonctionne quand même un petit peu mieux qu'aux États-Unis. Donc c'est vrai que ces enseignants se retrouvent à devoir habiller, devoir nourrir certains élèves qui viennent en cours. Et donc ils ont un peu toute la misère du monde qui leur tombe sur les épaules.
1400 profs qui pour la première fois se présentent à des... Pas forcément pour la première fois pour certains d'entre eux d'ailleurs, hein, mais pour qui se présentent
mais beaucoup,
aux élections.
Et pas tous démocrates. Hein.
Oui. On va y revenir, mais je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Giresse est en ligne avec nous. Bonjour Giresse.
Giresse. Bonjour madame.
Oui, bonjour. Vous êtes bien réveillé.
c'est un peu pénible, mais je suis là quand même.
Quelle heure est-il vous êtes à Salt Lake City, dans l'Utah. Quelle heure est-il chez vous?
Oh, il est 4h40 en ce moment.
Merci, Giresse, d'être en direct avec nous. Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous parlez bien français. Vous avez des enfants, vous avez trois filles de 14, 10 ans et 8 ans qui sont scolarisées. Juste en un mot, là, comme ça, vous, en tant que parent d'élèves, quel constat vous faites sur les écoles dans lesquelles sont scolarisés vos enfants? Comment ça se passe? Ça se passe bien ou mal?
Quel secteur d'activité ou de vie vous menez. Parce que ici aux États-Unis, l'éducation ne s'adapte pas forcément au développement. Parce que si tu vis dans un quartier précaire, tu n'as pas beaucoup de chances pour que tes enfants puissent réussir. Parce que l'un de vos invités parlait tout à l'heure du problème de budget
Mais vous, juste dites-nous en un mot, vous, en tant que père de famille, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de l'école de vos enfants?
Bon, moi, en fonction du secteur où je vis, je suis satisfait parce que mes enfants reçoivent une bonne éducation.
Oui. Ça se passe pas trop mal. Alors, je sais que vous avez des amis qui sont enseignants et qui sont obligés d'exercer d'autres métiers en même temps que le métier de prof.
Bien sûr, j'ai un ami qui est enseignant, mais qui a aussi des connaissances informatiques et pour arrondir ses fins du mois, est obligé de travailler avec des particuliers ou bien même des small business pour pouvoir arrondir sa fin du mois.
Oui, parce que sinon il ne peut pas boucler sa fin de mois. Merci beaucoup, Giresse, de nous avoir appelés. Émilie Souhiri et François Durpère, merci surtout de vous être levé si tôt, Giresse, encore une fois. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des protestations des enseignants pour que ça se politise aujourd'hui à ce point-là?
Alors, si Émilie veut, c'est l'élection de Trump aussi beaucoup, parce que l'élection de Trump plus Betsy DeVos, c'est vraiment la
ministre
goutte
de l'éducation.
Pourquoi? Parce que Betsy DeVos et Trump, il y a une idée, c'est que les profs se disent, ils veulent supprimer le ministère de l'éducation. Ils veulent fondre le ministère de l'éducation dans un vaste ministère avec le ministère du travail. Et là, philosophiquement, il y a quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire, c'est faire en sorte que le ministère du travail décide du type de métier dont a besoin l'économie américaine et soit donneur d'ordre à l'éducation pour dire nous on a besoin de ça et ça. C'est pas les profs qui sont les seuls résistants à cette affaire. Il y a aussi, et tenez-vous bien, le Congrès des États-Unis républicains qui a dit non aux coupes sombres dans l'éducation fédérale, nationale, prévues par Donald Trump. Dans son budget, ils avaient prévu des coupes. C'est pas possible. Mais je veux d'un mot revenir sur ce que vient de dire Giresse. Il a dit quelque chose de fondamental. Il a dit, on est dans un pays, et la recherche le montre, où on a un lien très fort entre le niveau d'éducation et votre place dans la société. Et ça, c'est les États-Unis sont champions du monde de ça.
Par l'intermédiaire du quartier où on vit.
Exactement. Hein,
c'est bien ce qu'il a dit.
Ça veut dire que Bourdieu, la reproduction. Ben, là, vous avez l'école comme facteur de reproduction. Et ça veut dire que ces profs qui se mobilisent, ils ont compris qu'on était là au cœur du rêve américain ou pas, de l'échec du rêve américain. C'est-à-dire que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Selon que vous naissez dans un quartier ou dans un autre, eh bien, vous avez accès à un type d'éducation ou à un autre type d'éducation et votre place dans la société y est liée. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est insupportable pour beaucoup de profs.
L'ascenseur social qui était à la base du rêve américain, comme vous venez de le dire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui...
Partir de rien et arriver très haut.
Il faut nuancer, je crois, hein, parce que quand on regarde le rapport PISA, la France se trouve, en termes de non-reproduction, bien derrière, bien loin derrière les États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a des quartiers...
De reproduction. Mmh. Oui, de reproduction sociale. Elle fait encore pire.
Oui, elle fait encore pire. Il y a une promotion sociale, voilà, qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal en France. On reproduit le système. Et donc c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont dans des quartiers extrêmement défavorisés où c'est le school to prison pipeline. Hein, on va directement de l'école à la prison, mais en même temps, il y a aussi une liberté dans les innovations pédagogiques qui sont pas forcément des innovations technologiques, qui est beaucoup plus dynamique aux États-Unis, qui fait que dans certains cas,
parce que les écoles sont autonomes aussi.
Parce qu'il y a plus d'autonomie, mais pas forcément. C'est aussi, c'est, je pense, philosophie. Que c'est lié très profondément à l'histoire des États-Unis. Ouais. Il y a un militantisme aux États-Unis, une implication politique des enseignants comme des élèves qui est très forte. Il y a une pédagogie qui s'inspire de la pédagogie critique que je trouve très intéressante. On a un exercice que certains enseignants font faire à leurs élèves dans certaines écoles, qui s'appelle « What? Now what? So what? » Ce qui veut dire de quoi on parle, donc on définit le problème. « So what? » Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on remet ça dans le contexte historico-politique? Et « So what? » C'est la dernière partie, et c'est une partie qui manque dans les écoles françaises, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces connaissances-là? Comment est-ce qu'on applique ça dans la société et dans notre communauté?
Une pédagogie très concrète, hein, finalement, François Durper.
Il y a trois aspects où là, le système américain... Désolé.
Rapidement, on va donner la parole à un auditeur sur la politisation des enseignants.
Non,
mais allez-y. On a dit que le système budgétaire craquait de toutes parts. Néanmoins, il y a de bonnes choses dans ces écoles.
Il y a un cercle vertueux fondamental. Il y a trois choses qu'on n'apprend pas en France, par exemple, dans le système francophone, et qu'on apprend aux États-Unis. Le comportement civique. Et pas seulement l'éducation civique théorique. Et ça date de John Dewey, qui est très différent de Durkheim. C'est le fondement du système, le comportement civique. Deuxième chose, ça veut dire, par exemple, l'écologie, vous ne l'apprenez pas de manière théorique. Vous l'apprenez autour du jardin communautaire. Et vous faites vos légumes, vous faites, etc. Et ça sert à la cantine. Deuxième chose, le sentiment d'appartenance. Et ça, pour le coup, PISA, la France ne fait pas.
Les études de l'OCDE.
Sentiment d'appartenance, ça c'est fondamental. Et puis... le bien-être et la confiance. Dans toutes les écoles américaines, vous avez un tableau et vous avez...
Et puis on dit
à son enfant, have fun quand il va à l'école. Have fun. Nous, on dit, bon courage. Bon courage, travaille bien.
Néanmoins, vous l'avez entendu quand même, il y a un gros désinvestissement de la part des élèves qui sentent bien quand même que les profs sont mal payés, qu'il y a moins d'argent dans certaines écoles. Et l'enseignant le disait au début de l'émission.
Oui, mais...
Les élèves sont souvent démotivés, néanmoins.
Ce système-là génère quand même beaucoup d'innovation. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que l'égalité, l'école française fait mieux, mais parfois c'est l'égalité par le bas. Les États-Unis, c'est la liberté, et parfois pour le pire.
Et parce qu'il y a cette croyance aux États-Unis que tout ce qui est géré par le public est centralisé et paralysant.
Oui, mais attention, il ne faudrait pas croire qu'il ne se passe rien dans l'école publique américaine. Dans l'école publique américaine, vous avez, avant même ce type de financement, vous avez dans cette école publique un rapport à l'élève qui est qui est particulier. Vous avez
plus
par exemple
plus de proximité entre les profs et les élèves.
Et puis oui, le fonctionnement de l'équipe par exemple est très différent. Vous savez, cette innovation, vous avez ici un lycée intégré à l'intérieur d'un campus universitaire. Vous avez les élèves, les lycéens qui prennent déjà des cours à l'Institut de technologie. Vous avez là un lycée intégré dans un musée où vous utilisez les ressources du musée. Vous avez un autre endroit, des petites structures, une classe égale une école. Incroyable.
Ouais, donc des ça, c'est quand ça se passe bien.
Ça, c'est ça. Oui, mais ça veut, c'est pas dans les très beaux quartiers. East Cleveland, vous êtes dans l'Ohio et vous avez une scolarisation conjointe des élèves et de leur famille. Vous scolarisez ensemble les élèves et leur famille. Là, vous avez des choses extrêmement intéressantes.
Alors, on va donner la parole à un auditeur
qui n'a pas forcément beaucoup de moyens.
Un auditeur nous appelle de Minneapolis, dans le Minnesota. Bonjour, Ali.
Bonjour, Daniel. Bonjour, les auditeurs.
Ali, vous êtes originaire de Djibouti. Vous êtes installé aux États-Unis depuis longtemps. Vous avez notamment 4 filles qui sont scolarisées à l'école primaire et au lycée. Et vous êtes parallèlement, je crois, militant du Parti démocrate. J'aimerais que vous me disiez quand même votre point de vue, à la fois de militant politique, mais aussi de père de famille sur l'école de vos enfants aux États-Unis.
Bien entendu, malgré ce qu'on dit des États-Unis, de Hollywood, et la réalité est un peu différente. Contrairement au pays où je suis d'origine, l'éducation est beaucoup meilleure. Mais malgré tout ça, spécialement dans mon État, il y a plus de 10 ans, on a eu des problèmes de budget avec l'équipe de Tim Pawlenty, le gouverneur de l'époque, qui a diminué les budgets scolaires, surtout pour le public. Mmh. Et également, il y a 2 classes. Il y a les riches et les pauvres, c'est un peu partout. Je crois que c'est un peu général au niveau mondial. Nos écoles souffrent à l'heure actuelle de manque de diminution de budget, et surtout dans les grandes villes et dans les quartiers pauvres. Et j'ai eu la chance d'habiter dans les, les périphéries, les suburbs. Mais malgré ça, depuis 1987, les députés de Minnesota ils ont adopté une loi de open enrollment, c'est-à-dire que pour rattraper le déficit de résultats, les parents, depuis 1989, ils ont l'option d'inscrire leur enfant dans des meilleures écoles, dans des villes différentes. Mm-hmm. Et ça a beaucoup aidé pas mal d'élèves pour
faire un rattrapage. Dans des charter schools dont on parlait.
Dans le public. Dans le public, parce que c'est un peu financé indépendamment des autres. Chaque école est un peu. On a un peu plus d'indépendance contrairement à la France. Et certaines écoles dans des pays riches, dans des quartiers riches ou dans les villes riches, ils ont plus de moyens. Ouais.
Émilie Souiri, vous souhaitez intervenir.
Oui, le problème de ces open enrollment, c'est que François Durper mentionnait Brown versus Board of Education, l'arrêt de la Cour suprême de 1954 pour déségréguer les écoles. Déjà, il a été très difficile d'appliquer cette déségrégation. On a ensuite introduit ce qu'on appelle le busing pour emmener des élèves noirs dans les écoles blanches, une fois que ça a été un petit peu plus facile.
Dans des bus, dans d'autres quartiers.
Voilà. Mais il y a une résistance face à ça qui est encore extrêmement profonde de la part de communautés blanches qui sont terrorisées, qui pensent que l'arrivée d'enfants noirs dans les écoles, ça va être la fin
de la communauté noire. Parce que vous imaginez, la communauté
noire. Qui ne se
sent
pas confortable.
Bah, écoutez, vous êtes dans un quartier, vous avez des difficultés en chaîne, et puis on vous dit en plus, votre enfant, il va faire 1h30 pour aller dans une école. Pas forcément le fonctionnement idéal. Alors, on est revenu un peu là-dessus. Et maintenant, il y a un autre système qui est le système de magnet school. On se dit, faut peut-être aussi penser à l'inverse. Est-ce qu'on pourrait pas, dans les quartiers où il y a le plus de noirs, parce que la ségrégation urbaine et ethnique est encore très forte aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait pas faire venir des écoles aimants, faire venir des populations plus aisées à l'intérieur de ces quartiers pour créer de la mixité en mettant en avant, par exemple, des projets innovants et un peu. Et d'ailleurs, c'est une expérimentation qu'on a menée aussi en France. C'est Magnet School américain. Ça a été expérimenté pour essayer de contrer l'absence de mixité qu'on connaît aussi dans le système français.
Ali, juste quel est votre regard de militant démocrate sur la mobilisation des enseignants ?
Personnellement, quand j'étais candidat au Sénat américain dans le ticket démocrate pendant l'été, je trouve que nos collègues républicains ont entamé une guerre contre l'éducation publique et essayent de privatiser. Je suis pour l'augmentation du budget et mettre à la disposition des écoles publiques et prévoir meilleure éducation pour nos enfants. Et même aller jusqu'à pourquoi pas 4 ans d'université gratuite dans les écoles publiques.
Oui, mais ça, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Ali, de nous avoir appelé de Minneapolis. Et merci aussi pour vous être levé si tôt, de si bon matin. Très, très bonne journée à vous dans le Minnesota. Merci, Ali.
Vous aussi.
Dans le fond, finalement, alors, que pensez de cette mobilisation des enseignants, François Durpère? Vous le disiez, 1400 profs qui se présentent là aux différentes élections de mi-mandat. C'est plus qu'auparavant, qu'aux autres élections, il se passe vraiment quelque chose?
C'est un mouvement inédit dans l'histoire du pays et qui est lié, je vous le dis, à deux choses, hein, l'élection de Trump et la nomination de Betsy DeVos, mais également le fait que les élèves ont cassé un peu le fatalisme. Alors, sur la question de la violence, très largement, dans ce lycée de Parkland, où tout le pays, hein, 17 morts, eh bien, il y avait les 17 minutes, on sortait, on faisait des minutes de silence, etc. On accompagnait les élèves. Donc, il y a eu un mouvement de l'ensemble du corps enseignant pour se solidariser de leurs élèves.
Mais et puis, il y a aussi... ce ne sont pas les tueries de masse qui sont régulières, hélas, qui mobilisent les enseignants dans la politique.
Mais c'est la première fois qu'on a à la une et en breaking news des élèves et leurs professeurs défilant à Washington, étant notamment devant la Maison Blanche. Et donc là, extrêmement visible. Et regardez par exemple le bilan d'Obama en matière éducative.
C'est la question que
on
n'a
jamais
poser.
Parlé de ça.
Mais non, mais finalement. Non.
Mais autant que l'assurance santé, on en a beaucoup parlé, l'assurance santé, ça fait. Mais il y a un bilan d'éducation très fort. D'ailleurs, quand le Congrès est passé républicain, l'une de ses obsessions, c'était vraiment l'éducation. Regardez notamment les normes éducatives qui ont été mis en place à partir enfin en 2010 et en 2011 en 45 États. Regardez la loi 2015 qu'a mis en place Obama. Mais pour si vous voulez. Mettre plus d'égalité dans le système pour faire en sorte que
mais il a continué quand même aussi la gestion privatisée de
des écoles. Je crois qu'on peut moi je nuancerai un petit peu le propos là. Moi j'ai l'impression de ce que je lis, il y a une chercheuse Diane Ravitch qui
il nous reste deux minutes.
Qui disait que finalement Obama c'était la continuation de George W. Bush.
George W. Bush c'était déjà pas Donald Trump en matière éducative.
C'est sûr, mais c'est très dans la compétition et pas beaucoup dans la collaboration. Et juste pour
on a continué sous Obama à fermer des écoles dans les quartiers pauvres et à développer la gestion privatisée d'écoles publiques.
Ouais.
On est d'accord.
Mais ce que les États-Unis font mieux et ce qu'on peut prendre pour modèle en France, c'est de donner une confiance dans la participation politique aux élèves. Si vous prenez par exemple Johanna Hayes, qui est une prof noire américaine qui se présente là pour les élections de mi-mandat pour représenter le Connecticut au Parlement. Elle a fait faire tout son site internet par ses élèves, par des étudiants, par des non-professionnels. Elle fait participer politiquement les élèves. Les élèves de Parkland ont eu le courage et le culot de se présenter dans les émissions sur les plateaux de télé. Quand est-ce qu'on voit en France des jeunes de collège ou de lycée qui ont l'assurance de répondre, de poser des questions difficiles aux politiciens? Moi, j'aimerais en voir et j'aimerais que les profs donnent cette confiance-là.
Si ça serait d'ailleurs tout à fait autorisé, parce que ça poserait quand même un problème de neutralité politique.
Mais non, mais la neutralité...
François Durpère, il nous reste quelques secondes. Ouais. Pour qui vont voter les profs là, aux élections de mi-mandat?
Démocrates, comme la plupart du temps, aux trois quarts, même si certains des candidats ne sont pas tous démocrates. Vous avez certains candidats républicains pour le parti républicain, mais c'est un mouvement très largement démocrate et j'allais dire même progressiste. Hein. Vous savez, il y a un grand débat au sein du Parti démocrate entre l'aile centre centriste et l'aile plus à gauche, les professeurs sont à gauche du Parti démocrate.
Merci à tous les deux, Émilie Souhiri, François Durpert, tous les deux spécialistes des États-Unis dans leurs universités respectives. François Durpert, vous avez publié votre dernier livre, c'est Les écoles du bonheur. Voilà, aux éditions Terra
Aide. Pas tout seul,
hein,
c'est juste la direction du... C'est le Labo Bonheur, en fait, qui
merci
qui
à toute l'équipe également. Demain, 7 milliards de voisins, émission consacrée à la société américaine dans ses dérives identitaires. Géraldine Smith est une journaliste française installée en Caroline du Nord. Elle publie Vue en Amérique, bientôt en France. À suivre demain.